Et avec Karine Bécard, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le délégué général, ça veut dire le patron du parti La République En Marche. Vos questions dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application de France Inter. Stanislas Guérini, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter. Ce matin, vous serez tout à l'heure à Matignon pour plancher avec le gouvernement sur la mise en musique des annonces faites par Emmanuel Macron jeudi dernier. Un certain nombre de principes ont été formulés, il faut désormais les traduire, les financer. Ça peut être un vrai casse-tête, on va voir ça. Comme chef du parti majoritaire, vous qui avez souvent voulu être une boîte à idées pour la majorité, quelle position entendez-vous occuper et défendre au cours de ce séminaire?
Mais qu'il faut maintenant appliquer vite et bien ce que le président de la République a dit. Moi, vous savez, je considère qu'une grande partie de la crise qu'on a vécue ces derniers mois, c'est une crise de résultats. C'est le fait que les Français n'ont pas vu suffisamment vite leur vie quotidienne changer. C'est une crise de l'exécution de la politique, bien souvent. Et c'est ça qu'on doit changer le plus en profondeur dans notre pays. Et donc, cette phase d'exécution par rapport aux annonces du président de la République, elle est absolument essentielle.
Donc la vitesse, c'est l'acte 2 du quinquennat, c'est ça? C'est une question de rythme.
La bonne association des corps intermédiaires, de nos concitoyens, c'est ce qui va faire que la décision politique puisse infuser dans la société. Et je crois que, collectivement, c'est ce qu'on a le plus à changer en réalité. Il faut qu'on change de méthode. C'est ça qui n'allait pas. Pas tant un problème de cap, un problème de méthode. Et donc, je crois que mieux associer les territoires, mieux associer les citoyens, mieux associer les corps intermédiaires, c'est effectivement une clé pour pouvoir mieux réformer et transformer ce pays.
Alors justement, comment vous allez faire? On a le président qui, évidemment, a joué son rôle, il a décidé. On a le gouvernement qui est chargé maintenant d'organiser, de mettre en musique, comme disait Nicolas tout à l'heure, tout cela. Qu'est-ce qui reste vraiment au parti présidentiel? Relayer la bonne parole, c'est votre rôle. Est-ce que vous allez retourner voir les Français? Est-ce que vous allez aller mesurer si les annonces qui ont été faites, eh bien, tout simplement, conviennent?
Oui, moi je crois que le changement, il doit venir de la société pour bien les sujets. Prenons l'exemple de la transition écologique. C'est exactement un sujet sur lequel on met de l'argent. Prenons un exemple concret. On a décidé d'investir des milliards d'euros, 9 milliards d'euros dans la rénovation thermique des bâtiments. Oui, mais voilà, quand on arrive au plus près du terrain, on s'aperçoit que ces fonds, ils sont pas utilisés, pas bien utilisés, qu'ils arrivent pas, il n'y a pas le dernier kilomètre de la réforme. Et donc moi, je crois que le dernier kilomètre de la réforme, justement, c'est tout l'écosystème qui doit se mettre en route, et notamment le parti majoritaire. Moi, j'aimerais que les marcheurs que je représente puissent être sur le terrain, justement, et dire « ça, votre truc, vous avez voté ça à l'Assemblée, ça fonctionne bien. Ça, ça marche pas. Comment est-ce qu'on le remonte? Comment est-ce qu'on a des signaux, des capteurs faibles sur le terrain qui nous disent… »
Donc une nouvelle grande marche, vous allez aller…
C'est pas tant une grande marche pour écouter. C'est une grande marche pour faire en sorte que l'exécution des politiques publiques soit la bonne.
Alors, vous voulez mettre en place, vous parliez à l'instant d'écologie, le président a parlé d'une convention des 150. Pour l'instant, ça paraît quelque chose d'un peu fumeux, permettez-moi l'expression, un gadget même. À quoi ça va ressembler? On va avoir 150 personnes tirées au sort, donc des Français, qui vont avoir leur mot à dire sur ce qu'on fait de l'écologie?
Oui, je crois que, au contraire, c'est vraiment assez révolutionnaire pour la France et pour la Ve République comme approche.
C'est l'idée.
Oui, mais je pèse mes mots parce que je crois justement que c'est là tout le drame de nos politiques publiques. C'est pas tant un conseil citoyen pour réfléchir à l'avenir, etc. Vous avez raison, il y en a plein. On sait en réalité qu'il faut engager la transition écologique. Les scientifiques nous le disent, nous le crient de manière extrêmement puissante. Maintenant, il faut qu'on le fasse. Et donc, ces 150 citoyens, justement, dans un process, on a dit, à l'irlandaise, bien, ils vont se mettre ensemble, ils vont dire quelles sont les décisions qu'on prend, mais de façon extrêmement précise. Pour la rénovation thermique des bâtiments, comment est-ce qu'on met de la pression sur les propriétaires ici? Quelle est la fiscalité carbone qu'on est capable d'accepter ou de pas accepter et sous quelles conditions? Est-ce que diront ces citoyens, eh bien, ça sera appliqué, soit directement au Parlement, soit par référendum. Et donc, c'est un process extrêmement puissant. Je crois qu'il a été un peu sous-évalué d'une certaine façon. Maintenant, à nous de le mettre en place.
Ils auront donc plus de pouvoir que le ministre de l'écologie.
Ils auront énormément de pouvoir.
Non, mais plus.
Vous savez, c'est pas d'opposer les uns aux autres.
Non, non,
je crois justement qu'on doit fonctionner.
Nicolas Hulot est parti en critiquant les petits pas. Eux, ils vont pouvoir en faire des grands.
Oui.
Vraiment,
je le crois, sincèrement,
vraiment.
Et en tout cas, c'est l'objectif. Et si on veut que ce qu'a dit le président de la République soit bien appliqué, oui, il faudra que ces citoyens-là aient beaucoup de pouvoir. Je crois que c'est au contraire un grand pas pour la rénovation de la vie démocratique dans notre pays qui est franchie.
Mais on gagne du temps. 150 personnes qui vont devoir se mettre d'accord ensemble.
Je crois que c'est tout le contraire, Karine Bécart. C'est vraiment pas l'idée de gagner du temps par rapport au fait de repousser des décisions. C'est justement l'idée de faire en sorte que nous prenions des choix collectifs et que ces choix ils soient mieux appliqués sur le terrain. Moi, vous savez, sur la transition écologique, j'entends parfois que cette majorité ne ferait pas assez, etc. Prenez mes sujets par sujet. En matière d'énergie, on met l'argent pour faire x5 sur les énergies solaires, x3 sur les énergies éoliennes. On a pris des lois pour sortir des hydrocarbures, sortir des centrales à charbon, mettre beaucoup plus de bio, 50% de bio dans la restauration collective. Tout ça, ce sont des mesures fortes. Mais en réalité, on a du mal à faire système d'une certaine façon. On a du mal à entraîner toute la société. C'est ça le drame et c'est ça qu'on va essayer de résoudre.
Stanislas Guérini, mettre en musique les annonces du président de la République aujourd'hui à Matignon, en tout cas première piste et premier séminaire. Le président de la République a dit qu'il faudra travailler plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'âge légal de départ à la retraite ne bouge pas, les 35 heures sont déjà largement aménagées. Exit le jour férié supprimé. Donc, il reste quoi? Qu'est-ce qui reste sur la table pour travailler plus?
Mais pour moi, travailler plus, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord faire baisser le chômage. Mais je le dis, c'est pas anodin. Le drame de notre société, c'est le chômage de masse. On a commencé à le faire baisser. Plus de 500 000 emplois qui ont été créés depuis le début du quinquennat, mais pas encore suffisamment. Et donc, il faut tout faire, se mobiliser. Et là aussi, ça sera un des ateliers à Matignon cet après-midi pour faire reculer le chômage de masse parce que...
Mais à très court terme, là, il va falloir de l'argent pour
travailler
financer
plus,
tout ce qui a été annoncé.
C'est aussi permettre aux gens de faire le choix de travailler plus. Ce sont les heures supplémentaires. Quand on choisit de défiscaliser les heures supplémentaires, on donne la possibilité de travailler plus. Et travailler plus, c'est effectivement la question de travailler plus dans sa vie. Le président de la République a tranché. Il n'y aura pas de recul de l'âge légal, départ à la retraite, mais un système de décote pour se dire comment est-ce qu'on incite des concitoyens qui veulent faire le choix de travailler plus à pouvoir travailler plus longtemps.
Alors dans le collimateur, vous avez également les niches fiscales pour financer, pour mettre en musique tout ça. Lesquelles on va pouvoir éventuellement supprimer? J'imagine que vous y avez déjà réfléchi, songé. Est-ce que vous avez quelques idées à nous soumettre ce matin?
Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, si je puis dire, parce qu'il y a eu des discussions au moment du dernier projet de loi de finances. Il y a 100 milliards de niches fiscales pour les entreprises, donc c'est notre base de travail. Mais je, d'une certaine manière, trahirais ce que j'ai dit précédemment. Si je vous disais, là, sur le coin de la table, je vais vous dire là, tout seul dans mon coin, quelles sont les niches fiscales à
supprimer.
Vous avez
une idée,
c'est
comme patron du parti.
C'est au contraire un travail collectif qu'on va devoir faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'empilement d'aides aux entreprises. Il y a des aides qui sont portées par l'État, d'autres par les régions. Et donc, il me semble que c'est une bonne piste que de regarder l'efficacité de ces aides en fonction aussi des tailles d'entreprise et de pouvoir essayer de dégager quelques milliards d'euros, ce n'est pas rien quand même, à travers cet empilement d'aides qu'on pourrait essayer de mieux rationaliser. Mais vous dire précisément laquelle aujourd'hui, je crois que ça serait une erreur.
Non mais le Figaro soumet un certain nombre d'idées. Par exemple, est-ce qu'il faut toucher à la TVA pour les travaux dans l'ancien? Est-ce que ça vous semble une bonne idée, bonne solution?
Vous savez, typiquement,
est-ce que c'est possible,
le petit jeu de regarder là ou là, de façon isolée, quel est le taux de TVA qu'il faut bouger, je ne crois pas sincèrement que ça soit la bonne méthode. Je crois d'ailleurs que, puisqu'on va le faire dans le prochain budget, la bonne méthode, c'est de concerter, de le faire avec les organisations professionnelles, avec les filières, justement pour avoir un travail collectif qui fasse que, pour une fois, on arrête d'annoncer un truc 6 mois avant le budget et puis que ça soit la catastrophe quand on arrive parce qu'on n'a pas suffisamment concerté.
Mais rien n'est décidé donc à ce stade.
Non, à ce stade, rien n'est décidé.
C'est une page totalement
blanche.
J'essaie
de vous répondre avec plus de transparence.
Bien sûr, bien sûr, mais nos questions...
Il y a des choses qui sont effectivement, qui ont déjà été discutées dans les projets de loi de finances, etc. Justement, donc je ne vous dis pas qu'on est sec d'idées, mais simplement annoncer ici quel est exactement le taux de TVA qu'il faut toucher, la niche fiscale qu'il faut bouger, je crois sincèrement que ça ne serait pas la bonne méthode, et donc c'est pas ce que
mais
je veux dire.
Mais en tout cas, les niches fiscales pour les particuliers, elles ne bougeront pas.
Non, ça c'est très clair, le président de la République a été très clair là-dessus, c'est dans le champ et l'assiette des niches fiscales pour les entreprises qu'il faudra travailler.
Alors le président de la République a parlé de fermer certaines agences publiques qui sont redondantes, inutiles, lesquelles?
Là aussi, on va avoir un travail collectif. Moi, j'avais fait une proposition à la tête du mouvement. C'est de faire en sorte, par exemple, que la commission du débat public soit intégrée dans le CESE aujourd'hui. Je crois qu'on va créer une chambre, justement, qui a vocation à associer des citoyens avec des citoyens tirés au sort. Il me semblerait que ça serait une mesure de rationalisation et aussi d'efficacité que de pouvoir avoir dans cette chambre aussi la capacité d'organiser les débats publics qui vont justement occuper nos concitoyens.
Alors là, je ne parle pas d'une agence publique, mais j'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'ENA, la suppression de l'ENA. On a Nathalie Loiseau, la tête de liste pour La République En Marche aux élections européennes, qui se dit soulagée hier de la suppression de l'ENA. Il faut rappeler qu'elle a été 4 ans la directrice de cette école. Est-ce que vous comprenez le vocable qu'elle utilise? Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un discours très opportuniste, très finalement opportuniste, oui, ou comment populiste?
Non,
c'est quand même triste qu'une ancienne directrice de l'école n'ait même pas envie de défendre cette école qu'elle a dirigée.
Elle parle en connaissance de cause, et je crois que beaucoup de gouvernements ont dit on va essayer de réformer cette école. Ben, on voit bien qu'on n'a pas réussi à sortir du système des grands corps, ou parce qu'on a un diplôme à 25 ans, on est dans une trajectoire pour toute sa vie, qui recrée une sorte de système de caste dans la haute administration. Et donc je crois effectivement qu'il fallait mettre, pour reprendre une autre expression de Nathalie Loiseau, un coup de pied dans la fourmilière et dire on remet le système à plat, on sort de ce système des grands corps et on crée une formation, parce qu'il va bien falloir continuer à former la haute administration du pays, mais où on va essayer d'aller recruter de façon beaucoup plus diverse une administration qui ressemble à la société.
Donc c'est pas un mot malheureux.
Mettre de la mobilité, non, je crois pas. Et je pense que les gens qui ont été en situation, ils ont un regard assez précis sur les choses. Nathalie Loiseau, c'est son cas. Oui, il faut mettre de la mobilité dans la haute fonction publique.
Quelques questions sur le calendrier législatif, notamment Stanislas Guérini. Va falloir aller vite, c'est ce que dit l'exécutif. Il va donc falloir faire de la place, tout simplement, dans l'agenda. Pensez-vous que les textes prévus, par exemple, sur l'audiovisuel ou sur la bioéthique vont être repoussés, décalés pour faire la place à toutes ces annonces dont vous allez parler aujourd'hui?
Il y a un certain nombre de textes qui devaient être présentés avant l'été en Conseil des ministres et puis qu'on allait étudier à l'Assemblée à l'automne, dont les deux textes que vous avez cités. Oui, il va falloir prioriser, c'est très clair. Moi, je crois qu'entre les deux textes que vous venez de citer, il me semble que les textes sur la bioéthique sont importants. Nous avons notamment des choix importants à faire sur la PMA. Je souhaite que ce texte ne soit pas trop retardé. Et donc, s'il faut prioriser, je prioriserai plutôt celui-là.
L'audiovisuel public n'est pas une urgence?
Il y a beaucoup de sujets qui sont extrêmement importants. Réformer l'audiovisuel, c'est important. Mais si je devais là aussi prioriser, je ferais la PMA avant l'audiovisuel.
La bioéthique, ça reste un sujet compliqué quand même pour la majorité, notamment avec cette députée Agnès Thil, mais c'est pas la seule, qui n'hésite jamais à se faire entendre sur le sujet, encore la semaine dernière. Donc, le repousser, ce sujet, ce serait de se donner un peu d'oxygène quand même, non?
Non, vraiment, je crois pas ça. D'abord, je pense que notre majorité en réalité est très sûre d'elle sur le fait de vouloir faire cette promesse présidentielle. Si vous parlez de la PMA pour toutes,
notamment,
nous allons le faire.
Mais il y en a une quinzaine quand même, des députés de la majorité
Ce sont des sujets sur lesquels, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une liberté de vote, parce que c'est des sujets qui touchent à l'intime, aux histoires personnelles. Vous savez, quand la majorité précédente avait voté le mariage pour tous, il y a des députés du Parti Socialiste qui s'étaient abstenus et même certains qui avaient voté contre. Ça n'avait pas empêché le Parti Socialiste de porter cette belle réforme que j'aurais évidemment voté aussi à l'époque.
Mais on vous demande de l'exclure en fait, Agnès Thil. Il y a des députés qui s'insurgent contre ces propos qui sont parfois déplacés.
Ce sont deux choses différentes. Voilà, moi je veux
pas qu'il y ait
de confusion là-dessus. Il doit y avoir une liberté de vote, et y compris une liberté d'expression. Mais il doit y avoir aussi des débats apaisés sur ces questions-là. Je constate effectivement par ces propos qu'elle ne permet pas ce débat apaisé. Et donc, oui, je pense qu'il faut saisir les commissions du mouvement. Nous avons une commission des conflits au mouvement de La République En Marche. Je la saisirai à nouveau pour que cette commission, sereinement, puisse instruire son cas. Mais, vous savez, je crois que c'est secondaire d'une certaine manière. Ce qui est important, c'est que nous puissions avoir en société un débat apaisé sur cette question qui le mérite.
Il y a énormément de questions d'auditeurs. Nous aussi, on en a encore beaucoup avec Karine Bécard. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, vous avez la parole. À vous d'ouvrir le débat.
Merci de prendre ma question. Merci pour vos émissions. Voilà, je vous appelais par rapport à l'élection européenne qui va avoir lieu dans un peu moins d'un mois. Et je voulais savoir où on pouvait trouver un programme écrit de Renaissance en marche. Puisque sur les réseaux sociaux, on voit que ça tracte beaucoup, on entend des « il faut », des « on doit », des « on veut ». Bon, c'est un peu du « Yaka-Faucon ». Concrètement, où sont les engagements écrits de la liste Renaissance en marche ?
Vous voulez les documents, Fabrice, pour avancer et vous faire votre idée, c'est ça ?
C'est ça.
Il va falloir patienter encore un peu.
Voilà, merci Fabrice. Stanislas Guérini va peut-être vous donner une adresse internet pour télécharger un PDF.
C'est une pub,
ou
quasiment.
Ou pas.
Non, mais non, pas. Il n'existe pas encore.
Il n'existe pas.
Le
voilà.
Projet pour ces élections européennes, le 9 mai, c'est un jour symbolique pour effectivement publier la version écrite intégrale de notre programme, mais il se construira autour d'axes forts, et notamment autour d'une priorité, qui est de réussir au niveau européen la transition écologique et sociale, donc le 9 mai, sur le site Renaissance, ou dans toute la France, puisque vous vous doutez bien qu'on va aller le distribuer partout,
voilà.
Parce que nous avons un vrai projet pour ces élections européennes, et c'est vrai, notamment, je citais la transition écologique, la transition sociale.
C'est pas un
ce
peu
sont
tard.
Des sujets que
vous avez Fabrice qui
absent.
Vous demande des éléments dès maintenant, le 9 mai,
non, mais
pour un vote
nous
le 26.
Mettons des propositions sur la table depuis des semaines, instaurer un SMIC européen, mettre en place une fiscalité carbone aux frontières de l'Europe, conditionner Schengen au fait de respecter les règles du jeu en matière d'immigration. Tout ça, ce sont des propositions qui font vivre la campagne. Mais le programme exhaustif, il y aura 79 propositions, ça sera le 9 mai.
Denis, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue.
Une première réflexion, M. Guérini et son gouvernement n'ont décidément rien compris au grand débat. Près de 14 semaines quand même de mobilisation, ça c'est une première réflexion. Le gouvernement écoute mais n'entend pas. Alors ma question, comment financer la baisse des impôts sur le revenu, près de 5 milliards ? Faudra-t-il travailler davantage ou bien envisager la baisse des dépenses publiques, ce qui sous-entend moins de services publics ? Alors que les gilets jaunes et dans une large part l'opinion publique voulait voir baisser cet impôt sur le revenu pour les moins aisés et augmenter pour les plus riches avec l'ajout de 14 nouvelles tranches. Et je terminerai. En revanche, M. Macron n'a rien décliné sur l'évasion fiscale. Plusieurs milliards échappent chaque année à l'impôt. Voilà.
Merci.
Je vous remercie.
Merci à vous, Denis. Stanislas Guérini vous répond.
Et moi, ce que j'ai entendu du grand débat, c'est de pas augmenter les impôts. Et donc, on a fait un choix qui était de rendre du pouvoir d'achat aux Français, avec une première décision au mois de décembre, 10 milliards d'euros, une décision très forte du président de la République, 5 milliards d'euros pour les classes moyennes qui supportent beaucoup d'impôts dans notre pays, sans augmenter les impôts des autres. Donc oui, vous avez raison, nous allons devoir financer cela. Moi, je ne crois pas que la baisse des dépenses publiques, ça soit toujours le recul du service public. Je pense qu'il faut moderniser. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on fait le prélèvement à la source, ben, je pense qu'on lève tout aussi bien l'impôt des Français, mais on peut
mais
effectivement avoir
pas.
3000 postes de fonctionnaires.
Un autre exemple,
en moins.
Ce serait quoi ?
Faut faire
un autre exemple, Stanislas Guérini de service public, qui aujourd'hui, au fond, n'appartiendrait plus vraiment à la sphère de l'action publique. Mais on pourrait soit abandonner, soit déléguer au privé.
Je vais vous dire, je pense que en réalité, c'est dans chacun des ministères, y compris les ministères prioritaires, la justice, la police, dans lesquels on a besoin d'avoir du service public, qui on peut aussi faire des économies.
C'est-à-dire
vous savez, je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, on va dans un commissariat, on dépose plainte. Il y a quelqu'un qui tape la plainte. Déjà, on pourrait peut-être filmer les choses. Ensuite, si ça va au tribunal, il y a un greffier dans un tribunal qui doit absolument retaper intégralement tout ce qui a été tapé dans le commissariat. Pourquoi ? Parce que les systèmes informatiques entre la police et la justice sont totalement obsolètes et n'arrivent pas à se parler. Ce sont des millions d'heures de fonctionnaires qui sont dépensées pour rien et qui en plus gâchent la vie et rendent inintéressant le travail de ces fonctionnaires. Des exemples comme ça, il y en a des milliers. Et donc c'est ça qu'il faut aller travailler. Je vais vous donner un autre exemple. On a décidé de changer de méthode avec les collectivités. Avec les plus grosses d'entre elles, on a dit on va contractualiser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va dire on va signer un contrat. Voilà quelle est l'augmentation que vous pouvez accepter. Eh bien, ça marche. On avait contractualisé pour avoir 1,2% d'augmentation de dépenses. Les collectivités, elles ont fait mieux. Elles ont fait mieux parce qu'on a un système intelligent qui dit, si vous faites mieux, vous pourrez dépenser plus d'argent pour investir. Et donc, on peut avoir un service public de meilleure qualité avec plus de fonctionnaires sur le terrain et un peu moins de fonctionnaires à Paris.
Alors, je rebondis quand même sur la question de Denis qui dit, voilà, vous n'avez pas très bien entendu ce qui s'est passé dans ce grand débat. J'ai cette impression-là aussi. Il y a beaucoup de Français qui réclamaient plus de démocratie, moins d'injustice. Alors, sur la démocratie, Emmanuel Macron a dit non au vote blanc, non au RIC, non au référendum de sortie du grand débat. Sur l'injustice, Emmanuel Macron a répondu redistribution, mais les classes aisées, elles, ne sont toujours pas, comment je pourrais dire, un peu plus sollicitées. Donc, est-ce que le chef de l'État ne serait pas tout de même passé un petit peu à côté de la sortie de son grand débat ?
Je ne crois pas. Je crois que
sur la démocratie, sur l'injustice,
oui, je vais vous répondre sur les deux sujets. Sur la démocratie, au contraire, je pense que on sous-estime le changement en profondeur. On a passé du temps à parler de ces conférences citoyennes. Ouais. Je crois que c'est un changement qui est très important. Mm-hmm. D'avoir de façon durable des citoyens tirés au sort au sein du CESE, je pense que c'est un changement très important. D'avoir, comme La République En Marche l'avait proposé d'ailleurs, la possibilité pour nos concitoyens d'avoir une proposition de loi citoyenne d'une certaine façon, en disant 1 million de personnes... vous sollicitez, eh bien, ça peut donner lieu à un projet de loi. Ce sont des changements très importants.
Vous les encouragez à réfléchir, vous ne les encouragez pas à décider.
Mais
le référendum, c'est décider.
D'abord, je ferai remarquer qu'il y a un caractère un peu contradictoire avec ce que vous me disiez, parce que tout à l'heure, vous étiez surpris que dans les conseils citoyens sur l'écologie, les citoyens puissent décider. Donc, vous voyez bien qu'il y a des sujets sur lesquels on donne la possibilité à des citoyens de décider. Et ensuite, moi, je crois que la bonne sortie du grand débat, d'une certaine façon, c'était pas l'effacement de la démocratie représentative. C'était pas de dire que les élus, ça n'a pas de valeur, etc. Je crois que ça a beaucoup de valeur. Mais c'est d'un meilleur dialogue, justement, entre la démocratie représentative et la démocratie délibérative, celle qui donne la parole à nos concitoyens. Il fallait mettre beaucoup d'oxygène dans cette 5e République. Je crois que le président de la République y a répondu.
Quelques questions sur l'application France Inter. Florian, question rapide, réponse rapide. Pourquoi 150 citoyens pour l'écologie alors qu'il y a déjà plein d'ONG qui disent quoi faire ?
Parce que nous sommes dans un moment de décision, pas dans un moment de concertation à travers ces conseils citoyens.
Il faut décider, les ONG, ça suffit pas pour construire de la décision politique. Il faut,
je pense qu'il faut pas opposer les uns aux autres, mais qu'effectivement, on a besoin, et je crois que chacun peut en convenir, de mettre un grand coup d'accélérateur sur l'écologie.
Aurélien, vous avez évoqué une solution révolutionnaire concernant la consultation citoyenne. Peut-on établir le même processus quant à la désignation du candidat LREM pour les municipales à Paris?
C'est une question très taquine.
Très.
Moi, je crois à une chose, c'est que ce mouvement s'est construit contre les primaires. Et donc, j'assume l'idée d'avoir une commission nationale d'investiture qui investira les candidats pour justement avoir des critères transparents. Il le fera, cette commission le fera à Paris comme ailleurs.
Alice, je souhaiterais connaître l'avis de Monsieur Guérini sur le « en même temps » que le président de la République annonce. Il annonce donc en même temps la suppression de l'ENA et en même temps il promeut le préfet Delpech dans un placard doré sur décision discrétionnaire. Comment pouvons-nous croire encore à la parole présidentielle ?
Alors, je dois vous avouer une chose, je ne sais pas du tout, le préfet Delpech a
Conseil
été
d'État.
Nommé.
Conseil d'État.
Mais ceci dit, il me semble bien normal
beaucoup de questions,
que
sur ce thème au standard.
Des hauts fonctionnaires puissent être effectivement nommés. Je crois qu'il était hors de question ou pas question
mais s'il
de
est
faire
puni
en sorte...
par pour inefficacité, pourquoi est-il promu par ailleurs ?
Je crois que c'était pas le sujet. Il avait besoin des changements à la préfecture de Paris. Il y a une réorganisation, mais il n'a jamais été question que le préfet Delpech n'ait tout simplement plus d'emploi demain. Donc il me semble que cette question est même un peu bizarre.
Beaucoup d'auditeurs, je vous le redis, se la posent.
Mais j'entends bien, je répète que la question, c'est pas de faire en sorte que les hauts fonctionnaires n'aient plus d'emploi demain. On a besoin des hauts fonctionnaires dans notre pays. C'est de mettre beaucoup plus de mobilité dans la haute fonction publique.
C'est pas de l'endogamie, donc. Parce qu'on critique l'endogamie de l'État pour les petits jeunes et les grands corps quand ils ont 23-25 ans. Et en revanche, quand il faut recaser les gens, c'est pas de l'endogamie. Non, c'est normal.
On a un haut fonctionnaire qui doit avoir un emploi, bien il y a quelqu'un qui décide de l'emploi qu'il va avoir demain. Je crois que ça me semble pas choquant à titre personnel.
Voilà, la réponse est faite.
Encore une question courte. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, doit-il remettre son poste en jeu à mi-mandat, comme lui-même l'avait évoqué quand il était président du groupe
je vais vous répondre
de l'Assemblée ?
À titre personnel, moi je ne pense pas. Il a été élu par l'Assemblée il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois d'ailleurs qu'il y fait un très bon travail à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc moi, je souhaite qu'il poursuive
cette
fonction.
Pas d'urgence pour la démission.
Non, je ne crois pas.
C'est lui-même qui avait soumis cette règle, je le redis. Hein, à l'époque où il n'était pas le président de l'Assemblée nationale, mais le président du groupe de la majorité à l'Assemblée, il avait dit à François de Rugy, dans 2 ans et demi, on change.
Oui, donc effectivement, en décembre 2019. Nous avons fait un autre choix en votant pour un président de l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, ça ne me semble pas, effectivement, l'urgence de passer du temps sur cette élection. Et encore une fois, je trouve qu'il fait du très bon travail à la présidence de l'Assemblée nationale.
Monsieur le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin et bon séminaire gouvernemental toute la journée.